Bonjour chers auditeurs. Alors pour commencer cette actualité du pape, je vais tout d'abord vous lire la catéchèse que le pape François a prononcée hier lors de l'audience générale. Alors nous sommes toujours dans le cycle des catéchèses sur les vices et les vertus, et cette fois le pape a abordé le thème de la prudence. Chers frères et sœurs, bonjour. La catéchèse d'aujourd'hui est consacrée à la vertu de la prudence. Avec la justice, la force d'âme et la tempérance, elles forment ce que l'on appelle les vertus cardinales, qui ne sont pas l'apanage des chrétiens, mais appartiennent au patrimoine de la sagesse antique, en particulier des philosophes grecs. C'est pourquoi l'un des thèmes les plus intéressants du travail de rencontre et d'inculturation fut précisément celui des vertus. Dans les écrits médiévaux, la présentation des vertus n'est pas une simple énumération des qualités positives de l'âme. Reprenant les auteurs classiques à la lumière de la révélation chrétienne, les théologiens ont imaginé le septenaire des vertus, les trois théologales et les quatre cardinales, comme une sorte d'organisme vivant où chaque vertu a un espace harmonieux à occuper. Il y a des vertus essentielles et des vertus accessoires, comme des piliers, des colonnes et des chapiteaux. Ici, rien de tel peut-être que l'architecture d'une cathédrale médiévale pour restituer l'idée de l'harmonie qui existe dans l'homme et de son attrait perpétuel vers le bien. Commençons donc par la prudence. Ce n'est pas la vertu de la personne craintive, toujours hésitante quant à l'action à entreprendre. Non, c'est une interprétation erronée. Il ne s'agit pas non plus de la simple prudence. Accorder la primauté à la prudence signifie que l'action de l'homme est entre les mains de son intelligence et de sa liberté. La personne prudente est créative. Elle raisonne, évalue, cherche à comprendre la complexité de la réalité et ne se laisse pas submerger par les émotions, la paresse, les pressions, les illusions. Dans un monde dominé par les apparences, les pensées superficielles et la banalité du bien et du mal, l'antique leçon de prudence mérite d'être retrouvée. Saint Thomas, dans le Sillage d'Aristote, l'appelait « recta ratio agibilium ». C'est la capacité de gouverner les actions pour les orienter vers le bien, d'où son surnom de « cocher des vertus ». Prudent est celui ou celle qui sait choisir. Tant qu'elle reste dans les livres, la vie est toujours facile. Mais au milieu des vents et des vagues de la vie quotidienne, c'est une autre affaire. Nous sommes souvent incertains et ne savons pas quelle direction prendre. Celui qui est prudent ne choisit pas au hasard. Il saisit d'abord ce qu'il veut. Puis il réfléchit aux situations, se fait conseiller. Et avec une vision large et une liberté intérieure, il choisit la voie à suivre. Certes, cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire d'erreur. Après tout, nous restons des êtres humains. Mais au moins, il évitera les dérapages majeurs. Malheureusement, dans tous les milieux, il y a ceux qui ont tendance à écarter les problèmes par des plaisanteries superficielles ou à toujours susciter la controverse. La prudence, en revanche, est la qualité de qui est appelé à gouverner. Il sait qu'administrer est difficile, qu'il y a de nombreux points de vue et qu'il faut essayer de les harmoniser, qu'il faut faire le bien non pas de quelques-uns, mais de tous. La prudence enseigne aussi que, comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien. Trop de zèle, en effet, dans certaines situations, peut provoquer du désastre, peut ruiner une construction qui aurait nécessité de la méthode, peut générer des conflits et des incompréhensions, peut même déclencher des violences. La personne prudente sait conserver la mémoire du passé, non pas parce qu'elle a peur de l'avenir, mais parce qu'elle sait que la tradition est un patrimoine de sagesse. La vie est faite d'un chevauchement constant de choses anciennes et de choses nouvelles. Et il n'est pas bon de toujours penser que le monde commence avec nous, que nous devons aborder les problèmes en partant de zéro. La personne prudente est également prévoyante. Une fois que l'on a décidé du but à atteindre, il faut se donner tous les moyens d'y parvenir. De nombreux passages de l'Évangile nous aident à éduquer la prudence. Par exemple, est prudent celui qui bâtit sa maison sur le roc, et imprudent celui qui la bâtit sur le sable. Sages sont les jeunes filles qui portent de l'huile pour leur lampe, et folles celles qui n'en portent pas. La vie chrétienne est une combinaison de simplicité et de discernement. Préparant ses disciples à la mission, Jésus leur recommande : Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Comme pour dire que Dieu ne veut pas simplement que nous soyons des saints. Il veut que nous soyons des saints intelligents parce que sans la prudence, c'est facile de s'égarer. Voilà, chers auditeurs, c'était la catéchèse que le pape François a prononcée hier lors de l'audience générale. Et le thème, cette fois-ci, était la prudence. Dimanche dernier, avant la prière de l'Angélus, le pape François, comme à son habitude, a fait un discours sur l'évangile du jour. Et donc, c'est ce texte que je vais vous lire maintenant. Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, cinquième dimanche de carême, alors que nous approchons de la Semaine Sainte, Jésus dans l'Évangile nous dit quelque chose d'important. Sur la croix, nous verrons sa gloire et celle du Père. Mais comment est-il possible que la gloire de Dieu se manifeste précisément là, sur la croix? On pourrait penser que cela se produit à la résurrection, et non sur la croix, qui est une défaite, un échec. Au contraire, aujourd'hui, Jésus, parlant de sa passion, dit « L'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié ». Que veut-il nous dire? Il veut nous dire que la gloire, pour Dieu, ne correspond pas au succès humain, à la célébrité ou à la popularité. Elle n'a rien d'autoréférentiel. Elle n'est pas une démonstration grandiose de puissance suivie d'applaudissements du public. Pour Dieu, la gloire, c'est aimer jusqu'à donner la vie. Se glorifier, pour lui, c'est se donner, se rendre accessible, offrir son amour. Et cela a culminé sur la croix, où Jésus a manifesté pleinement l'amour de Dieu en révélant parfaitement le visage de la miséricorde, en nous donnant sa vie et en pardonnant à ceux qui l'ont crucifié. Sur la croix, la chair de Dieu, le Seigneur nous enseigne que la vraie gloire, celle qui ne s'éteint jamais et qui rend heureux, est faite de dons et de pardon. Le don et le pardon sont l'essence de la gloire de Dieu. Et ils sont pour nous le chemin de la vie. Don et pardon, des critères très différents de ce que nous voyons autour de nous, et en nous aussi, lorsque nous considérons la gloire comme quelque chose à recevoir plutôt qu'à donner, comme quelque chose à posséder plutôt qu'à offrir. Mais la gloire mondaine passe et ne laisse pas de joie dans le cœur. Elle ne conduit pas non plus au bien de tous, mais à la division, à la discorde, à l'envie. Nous pouvons alors nous demander, quelle est la gloire que je désire pour moi-même, pour ma vie, que je rêve pour mon avenir? Celle d'impressionner les autres par mes prouesses, mes capacités ou les choses que je possède? Ou la voie du don et du pardon, la voie de Jésus crucifié, la voie de celui qui ne se lasse pas d'aimer, confiant qu'il témoigne de Dieu dans le monde et fait resplendir la beauté de la vie? Rappelons-nous bien que lorsque nous donnons et pardonnons, la gloire de Dieu brille en nous. Que la Vierge Marie, qui a suivi Jésus avec foi à l'heure de sa passion, nous aide à être des reflets vivants de l'amour de Jésus. Chaque année, le prédicateur de la maison pontificale, le cardinal Raniero Cantalamessa, propose des méditations à la curie romaine pour accompagner le temps du carême. Cette année, il aborde les « Je suis » du Christ. La première prédication de carême avait pour thème « Je suis le pain de vie ». La deuxième « Je suis la lumière du monde ». La troisième « Je suis le bon berger ». La semaine dernière, je vous avais lu un extrait de cette troisième prédication de carême. Et cette fois-ci, je vais vous lire la quatrième prédication de carême que le cardinal a publiée vendredi dernier et qui a pour thème « Je suis la résurrection et la vie ». Dans notre commentaire des solennels « Je suis » prononcé par le Christ dans l'évangile de Jean, nous sommes arrivés au chapitre 11. Il est entièrement occupé par l'épisode de la résurrection de Lazare. L'enseignement que Jean a voulu transmettre à l'Église, avec la savante composition du chapitre, peut se résumer en trois points. Premier point, Jésus ressuscite son ami Lazare. Deuxième point, la résurrection de Lazare fait condamner Jésus à mort. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le Conseil suprême. Ils disaient « Qu'allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui. Et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors, l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Troisième point, la mort de Jésus entraînera la résurrection de tous ceux qui croient en lui. En fait, l'évangéliste explique. Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais, étant grand prêtre, cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. En résumé, la résurrection de Lazare provoque la mort de Jésus. La mort de Jésus provoque la résurrection de quiconque croit en lui. Nous pouvons maintenant nous concentrer sur la parole d'auto-révélation contenue dans le texte. Jésus lui dit « Ton frère ressuscitera ». Marthe reprit « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit « Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Je suis la résurrection. Nous pouvons nous demander de quelle résurrection Jésus parle ici. Marthe pense à la résurrection finale. Jésus ne nie pas cette résurrection au dernier jour, qu'il promet lui-même ailleurs. Mais il annonce ici quelque chose de nouveau, à savoir que la résurrection commence maintenant pour ceux qui croient en lui. Saint Augustin développe « Le Seigneur Jésus voulait nous parler d'une certaine résurrection qui précéderait celle des morts, mais qui ne ressemblerait ni à celle de Lazare, ni à celle du fils de la veuve de Naïm, qui ont ressuscité pour mourir à nouveau. » Pour nous indiquer un genre différent de résurrection. Comme on peut le constater, l'idée d'une résurrection spirituelle et existentielle qui s'opère déjà dans cette vie, grâce à la foi, n'était pas inconnue dans la tradition chrétienne. La nouveauté s'est faite lorsqu'on a voulu en faire le seul sens de la parole de Jésus. La position de Bultmann est bien connue. Elle est aujourd'hui largement dépassée, mais était dominante lorsque j'étudiais la théologie. La résurrection dont parle Jésus est pour lui une résurrection existentielle, un éveil de la conscience, fondé sur la foi. Nous sommes sur la ligne du vague, appel à la décision et dû se décider pour Dieu, auquel il réduit presque tout le message de l'Évangile. Mais Jean consacre deux chapitres entiers de son Évangile à la résurrection corporelle de Jésus et nous offre certaines des informations les plus détaillées sur le sujet. Pour lui, ce n'est pas simplement la cause de Jésus, c'est-à-dire son message, qui est ressuscité des morts, comme l'a écrit quelqu'un, mais sa personne. La résurrection actuelle ne remplace pas la résurrection finale du corps, mais elle en est la garantie. Elle ne rend pas inutile la résurrection du Christ du tombeau, mais se base précisément sur elle. Jésus peut dire « Je suis la résurrection, car il est le ressuscité ». Avant Jean, c'est l'apôtre Paul qui affirmait le lien indissociable entre la foi chrétienne et la résurrection réelle du Christ. Il est toujours utile et salutaire de se souvenir de ces paroles véhémentes aux Corinthiens. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu. Votre foi aussi est sans contenu. Et nous faisons figure de faux témoins de Dieu pour avoir affirmé, en témoignant au sujet de Dieu, qu'il a ressuscité le Christ alors qu'il ne l'a pas ressuscité si vraiment les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés. Jésus lui-même avait annoncé sa résurrection comme le signe par excellence de l'authenticité de sa mission. À ses adversaires qui lui demandaient un signe, il donne une réponse qui ne peut guère être attribuée à quelqu'un d'autre qu'à Jésus lui-même. Il leur répondit : Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe. Mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme restera de même au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Ses adversaires savaient bien que Jonas n'était pas resté pour toujours dans le ventre de la baleine, mais qu'au bout de 3 jours, il en était sorti. J'ai parlé dans une de mes précédentes méditations du préjugé présent chez les non-croyants vis-à-vis de la foi, qui n'est pas différent de celui qu'ils critiquent chez les croyants. En fait, ils reprochent aux croyants de ne pas pouvoir être objectifs, puisque la foi leur impose, dès le départ, la conclusion à laquelle ils doivent parvenir, sans se rendre compte qu'il se passe la même chose entre eux. Si l'on part de la conviction que Dieu n'existe pas, que le surnaturel n'existe pas, et que les miracles ne sont pas possibles, la conclusion à laquelle on parviendra est également donnée dès le départ, et est donc littéralement un préjugé. La résurrection du Christ en constitue le cas le plus exemplaire. Aucun événement de l'Antiquité n'est détaillé par autant de témoignages de première main que celui-ci. Certains d'entre vous remontent à des personnalités de la trempe intellectuelle de Saul de Tarse qui avaient auparavant farouchement combattu cette croyance. Il fournit une liste détaillée de témoins, dont certains sont encore en vie, qui auraient donc facilement pu le désavouer. On souligne souvent les divergences sur les lieux et les moments des apparitions, sans se rendre compte que cette coïncidence imprévue sur le fait central est une preuve de la vérité historique de celle-ci, plutôt que sa négation. Pas d'harmonie préétablie dans ce cas. Avant d'être mis par écrit, les événements de la vie de Jésus ont été transmis oralement pendant des décennies. Et variations et adaptations dans les détails sont typiques de chaque récit d'une communauté vivante et en expansion, fait de ses origines selon les lieux et les circonstances. C'est la conclusion à laquelle sont parvenues les recherches critiques les plus récentes et les plus accréditées sur les évangiles. Mais il n'y a cependant pas que les apparitions. Saint Jean Chrysostome a, à cet égard, une page célèbre à laquelle aucune investigation critique moderne n'a rien enlevé de sa force de conviction. Voilà ce qu'il disait dans une homélie au peuple. Comme 12 hommes ignorants qui avaient passé leur vie sur les étangs, sur les fleuves, dans les déserts, qui n'avaient peut-être jamais mis les pieds dans une ville ou sur une place publique, auraient-ils osé former une si grande entreprise ? Comment leur serait venue la pensée de lutter contre le monde entier ? Ne seraient-ils pas dit eux-mêmes « Qu'est-ce que ceci ? Il n'a pas pu se sauver lui-même et il nous défendrait ? Vivant, il ne s'est pas aidé et mort, il nous tendrait la main ? Vivant, il n'a pas soumis un seul peuple et nous, à son nom seul, nous soumettrions le monde entier ? Quoi de plus déraisonnable ? Je ne dis pas qu'une telle entreprise, mais qu'une telle pensée. Il est donc évident que s'il ne l'avait pas vu ressusciter, s'il n'avait pas eu la preuve la plus manifeste de sa puissance, il n'eût point joué un tel jeu. À toutes ces preuves, le non-croyant ne peut qu'opposer que la conviction que la résurrection d'entre les morts est quelque chose de surnaturel, et que le surnaturel n'existe pas. Et qu'est-ce que tout cela ? Sinon justement un préjugé et un a priori. Fides Christianorum Resurrectio Christi Est, écrivait saint Augustin, la foi des chrétiens est la résurrection du Christ. Et il ajoutait, tout le monde croit que Jésus est mort, même les réprouvés le croient, mais tout le monde ne croit pas qu'il est ressuscité, et on n'est pas chrétien si l'on n'y croit pas. C'est le véritable article par lequel l'Église tient ou tombe. Dans les Actes, les apôtres sont simplement définis comme des témoins de sa résurrection. Cela valait donc la peine d'y rafraîchir notre foi afin de célébrer liturgiquement cette résurrection dans quelques semaines. Ce n'est que maintenant, après avoir réaffirmé le fait historique de la résurrection du Christ, que nous pouvons consacrer notre attention au sens existentiel de la parole de Jésus. Je suis la résurrection et la vie. En commentant l'épisode des morts, ressuscités et apparus à Jérusalem au moment de la mort du Christ, Saint Léon le Grand écrit que les signes de la résurrection à venir apparaissent maintenant dans la ville sainte, c'est-à-dire dans l'Église. Et que ce qui doit s'accomplir un jour dans les corps puisse maintenant s'accomplir dans les cœurs. Il existe, autrement dit, deux types de résurrection. Il y a une résurrection du corps qui aura lieu au dernier jour, et il y a une résurrection du cœur qui doit avoir lieu chaque jour. La meilleure façon de découvrir ce que l'on entend par résurrection du cœur est d'observer ce que la résurrection physique de Jésus a produit sur le plan spirituel dans la vie des apôtres. Pierre commence sa première lettre en disant « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux. La résurrection du cœur, c'est donc l'espérance qui renaît. Curieusement, le mot « espérance » est absent de la prédication de Jésus. Les évangiles rapportent beaucoup de ses paroles sur la foi et la charité, mais aucune sur l'espérance même. Comme nous allons le voir, toutes ces prédications proclament qu'il y a une résurrection des morts et une vie éternelle. Au contraire, après Pâques, nous voyons l'idée et le sentiment de l'espérance exploser littéralement dans la prédication des apôtres. Dieu lui-même est défini comme le Dieu de l'espérance. L'absence de parole sur l'espérance dans l'Évangile s'explique simplement. Le Christ devait d'abord mourir et ressusciter. En ressuscitant, il a ouvert la source de l'espérance. Il a inauguré l'objet même de l'espérance théologale qui est une vie avec Dieu au-delà de la mort. Essayons de voir ce qu'une renaissance de l'espérance pourrait produire dans notre vie spirituelle. Les Actes des apôtres racontent ce qui s'est passé un jour devant la porte du temple de Jérusalem, appelée la Belle Porte. Près d'elle, gisait un infirme qui demandait l'aumône. Un jour, Pierre et Jean sont passés par là, et nous savons ce qui s'est passé. L'infirme, guéri, se releva d'un bond, et finalement, après on ne sait combien d'années où il était resté là, abandonné, il franchit lui aussi cette porte et entra dans le temple, bondissant et louant Dieu. Il pourrait se produire quelque chose de semblable pour nous, grâce à l'espérance. Nous nous trouvons nous aussi souvent, spirituellement, dans la position de l'infirme au seuil du temple, inerte et tiède, comme paralysée devant les difficultés. Mais voilà que l'espérance divine passe, portée par la parole de Dieu, et elle nous dit à nous aussi, comme Pierre, à l'infirme et Jésus au paralytique, « Lève-toi et marche ». Voilà, chers auditeurs, c'était un extrait de la quatrième prédication de carême du cardinal Raniero Cantalamessa, qui avait pour thème « Je suis la résurrection et la vie ». Les évêques de France se réunissent ces jours-ci à Lourdes pour les assemblées plénières. Cette session a lieu deux fois par an, au printemps et à l'automne. Elle permet aux évêques de se retrouver pour prier, réfléchir sur les travaux en cours et les orientations pastorales et s'exprimer sur des thèmes importants en lien avec l'actualité. Et donc pour terminer cette actualité du pape, chers auditeurs, j'aimerais vous confier cette assemblée plénière qui a lieu actuellement et qui se terminera ce samedi. Donc voilà, on peut confier tous les évêques pour que le Seigneur leur montre la bonne marche à suivre pour guider au mieux l'Église. Et puis j'aimerais également confier à vos prières la journée mondiale de la trisomie 21 qui a lieu aujourd'hui. Voilà, chers auditeurs, c'est la fin de cette actualité du pape. J'aurai pour ma part la joie de vous retrouver dans deux semaines pour une nouvelle actualité du pape.
Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, c'était Actualité du Pape avec Raphaël. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.radiomaria.fr ou sur notre application Radio Maria Play.